14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ?
Comment ?
Elle va bien, c'est bien réglé ?
Qui est à l'appareil ?
Bah, devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois.
Comment vous appelez-vous ?
Ah, zéro.
Bonjour, 27 ans pour attraper une ombre, celle du violeur et meurtrier de la Robertso à Strasbourg. Une silhouette nocturne qui, au milieu des années 80, faisait régner la terreur dans ce quartier bourgeois jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable, le meurtre, tout aussi glacial que gratuit d'une jeune fille de 17 ans. Longtemps, les policiers et les juges ne vont connaître de cet homme que le timbre de sa voix enregistré sur un répondeur téléphonique. La voix sombre et détachée d'un corbeau malfaisant se réjouissant de ses actes. Nous allons voir comment Nicolas Charbonnier, c'est le nom de l'étrangleur de la Robertso, a fini par être arrêté. On a alors découvert le visage d'un homme rangé, discret père de famille, qui avait mis son terrifiant passé entre parenthèses, comme on range une vieille photo dans le tiroir aux souvenirs. Malgré l'enquête, les interrogatoires et les explications de l'intéressé, cette affaire conserve toujours sa part de mystère.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Et dans l'heure du crime aujourd'hui, l'étrangleur de la Robertso. Première apparition à l'hiver 1986 de cet homme qui a jeté son dévolu sur ce quartier tranquille et plutôt huppé de la capitale alsacienne. Une enfant seule dans sa chambre est une proie facile. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1986, une silhouette fait face au numéro 26 du quai Zorn à Strasbourg. Un immeuble bourgeois de 3 étages qui surplombe un bras de l'île, la rivière cachée par un rideau d'arbres. Pas âme qui vive à cette heure-là. L'adresse est silencieuse, déserte. Personne n'entend le claquement sec d'une pierre qui a brisé un carreau d'une fenêtre du rez-de-chaussée, l'appartement de la famille Villain. L'homme fait coulisser le battant, puis bondit sans bruit à l'intérieur. La petite Marion, 11 ans, a-t-elle été réveillée par un bruit inhabituel? Le fait est qu'elle sort de sa chambre et se retrouve face à un inconnu. Elle reste pétrifiée. Elle n'a pas le temps de crier. L'homme la saisit, la bâillonne avec sa main et l'entraîne, la jette sur le lit. Il la viole avec une baguette en bois trouvée sur place. Une baguette utilisée pour la construction d'une maquette. L'homme va ensuite étrangler Marion à l'aide d'une cordelette. La petite fille suffoque et s'évanouit sous la pression. Elle paraît ne plus respirer. L'étrangleur la croit morte. Quand il quitte les lieux, il laisse sa victime dénudée et couchée sur son lit en chien de fusil. Marion a miraculeusement survécu. Il lui faudra quelques heures pour revenir à elle et alerter ses parents. La police judiciaire de Strasbourg est à pied d'œuvre dans l'appartement du quai Zorn. La petite Marion est en état de choc et ne peut pas être entendue immédiatement. Ses souvenirs sont confus. Elle est apeurée. Pendant 30 ans, elle n'a pas connu une seule nuit sans faire de cauchemar, confiera des années plus tard son avocat, maître Yannick Fulpin. Pour les médecins, le viol ne fait aucun doute. Outre la baguette de maquette laissée sur place, des traces de sperme de l'agresseur sont détectées. Les enquêteurs établissent que l'homme s'est servi d'une cordelette pour pouvoir tuer afin d'éviter tout témoignage éventuel de sa victime. Pour le reste, il n'a pas laissé d'empreinte derrière lui, ni de doigts, ni de pas. Il a été prudent, sans doute portait-il des gants. En ce milieu des années 80, la recherche ADN n'existe pas. La vidéosurveillance est encore une fiction et les téléphones portables n'ont pas fait leur apparition. Qui plus est, hormis la petite Marion, aucun témoin n'a entendu ou vu quoi que ce soit. L'enquête de voisinage ne donne rien. Cette rue paisible de Strasbourg n'avait jamais connu un tel acte d'une telle violence. L'étrangleur est sans doute un homme jeune, sportif. Il est reparti comme il était venu, par la fenêtre du rez-de-chaussée, puis s'est fondu dans l'obscurité. Les enquêteurs se concentrent sur une liste d'agresseurs sexuels connus ou de pédophiles. Mais ces recherches ne donnent rien. Dans les 15 jours qui suivent le viol et la tentative de meurtre, début février 1986, il dispose soudain d'un élément capital. La famille de Marion a alerté la PJ d'un coup de fil tout aussi sordide que cynique. Un homme, parlant d'une voix presque enjouée et moqueuse, nargue le père de Marion. Par chance, la courte conversation est enregistrée sur le répondeur téléphonique.
Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle celle que j'ai violée la dernière fois.
Comment?
Elle va bien, c'est bien allé.
Qui était l'appareil?
Bah, devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois.
Quel jour?
Dans la nuit.
Quel jour c'était?
Ouais, je me rappelle plus.
Vous vous rappelez plus? Ouais. Comment vous appelez-vous?
Ah, Zéro.
Vous habitez à Strasbourg?
Ah non?
Vous habitez Strasbourg?
Bah, vous êtes de la police? Allez, salut.
La PJ craint alors d'avoir affaire à un prédateur qui a parfaitement préparé son coup et qui va peut-être récidiver. L'enregistrement est pour l'instant versé au dossier. Il ne sera diffusé par la télévision régionale que 2 ans plus tard, avec l'espoir que quelqu'un reconnaisse le timbre particulier de l'agresseur. Mais cette opération ne donnera rien. Avec la petite Marion, les enquêteurs ne disposent pas de pistes solides. Ils ne font pas de rapprochement avec une agression précédente survenue dans la nuit du 5 au 6 octobre 1985 où un homme s'est introduit dans un appartement de Schiltigheim, une banlieue de Strasbourg. Il a été mis en fuite par l'occupante Patricia Huckel. Il a bien laissé derrière lui une cordelette, mais pas de rapport évident entre les affaires. D'abord, la victime ici n'est pas une enfant, elle a 26 ans. Et puis, cette femme n'a fait état à ce stade d'aucune agression sexuelle. Un simple cambriolage nocturne, donc, l'homme a emporté ici 200 francs dans le sac à main de la locataire. Et nous allons voir pourtant que ces deux affaires se ressemblent beaucoup plus qu'il n'y paraît. La victime, Patricia Huckel, ira plus loin dans ses déclarations. Pour l'instant, on va en rester au viol sordide de la petite Marion qui a été laissée pour morte par son bourreau dans sa chambre, le quai Zorn, dans ce quartier tranquille de Strasbourg que vous connaissez bien. Yannick Holland, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté, Yannick, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste RTL à notre bureau de Strasbourg et on vous entend souvent sur cette antenne. Cette ville n'a pas de secret, la capitale de l'Europe. Le quai Zorn, je le disais, c'est un quartier tranquille. On attend tout sauf un viol d'une telle horreur dans un tel quartier.
Oui, exactement. C'est un des quartiers bourgeois, je dirais, les plus recherchés de Strasbourg. Entre le centre-ville et le Parlement européen, un quartier résidentiel très calme, absolument sans histoire. Je dirais qu'il ne s'y passe rien, vraiment rien en temps normal. Et évidemment, un fait d'une telle gravité sort totalement de la norme et est absolument inimaginable dans ce quartier très tranquille.
Oui, un fait d'une très grande violence. Qui plus est, Yannick, il faut le préciser, on est là au milieu des années 80. On ne peut pas dire que Strasbourg connaisse des pics de délinquance terribles à cette époque. C'est une ville très calme.
Oui, c'est une ville calme et effectivement, ces faits sortent totalement de l'ordinaire. La police ne comprend pas ce qui se passe parce que effectivement, ce n'est absolument pas habituel. Et puis, dans ce quartier, effectivement, proche du centre-ville, quartier bourgeois, ça n'a absolument aucun sens pour les enquêteurs que ça se passe à cet endroit-là. Et la police a peur que cela déclenche effectivement une vraie panique à Strasbourg. Et c'est ce qui va progressivement se passer dans les mois qui suivent. C'est avec cette étrangleur de la Roberto qui va commencer à faire son apparition dans les médias.
Bien sûr, alors là c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement il va y avoir une psychose et on va en parler et vous allez nous en parler dans cette émission. On a une heure devant nous pour parler de l'étrangleur de la Roberto. Au début, ce que vous nous dites, Yannick, c'est que finalement la police, elle est prudente, elle garde le silence sur cette histoire. On n'a pas envie trop que ça s'ébruite, ce fait terrifiant.
Oui, effectivement, c'est tellement sordide. Et puis, effectivement, il y a cet enregistrement, vous l'avez dit. Ouais, la police l'a gardé pendant 2 ans. Cet enregistrement est resté secret, alors qu'on aurait peut-être pu le diffuser tout de suite pour trouver, pour essayer de trouver le coupable. Mais à cette période-là, cela semble trop sordide. On ne peut pas diffuser un enregistrement pareil. La police va miser sur des méthodes traditionnelles pour essayer de retrouver le coupable. Mais on se dit bien que si on diffuse un tel enregistrement, cela va provoquer un début de panique à Strasbourg.
À Strasbourg.
Voilà. Et dans les années 85-86.
Oui, et vous faites bien de le souligner parce qu'il faut toujours toujours remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On est en 85-86, il n'y a pas de réseaux sociaux à cette époque-là pour diffuser ce genre de documents. Les télés, il n'y en a pas beaucoup. Et puis les radios ne sont pas habituées à être utilisées pour diffuser ce genre d'enregistrement. Est-ce que Yannick, on va en parler tout de suite après de l'étrangleur de la Robertso avec celui qui est devenu son avocat, maître Éric Braun. Mais pour l'instant, on reste sur ce premier fait finalement visible pour les policiers. Est-ce que avec cet enregistrement, les policiers ont tout de suite le sentiment que c'est bien l'homme qui a violé la petite Marion qui est derrière ces mots? Parce que ça peut être aussi un affabulateur.
Alors, ils en ont assez vite la conviction, parce qu'il y a un détail, c'est que ce téléphone de la famille Villain n'était pas disponible dans l'annuaire. Donc, les enquêteurs savent que c'est quelqu'un qui a eu le numéro d'une autre manière, et ils pensent que le coupable, en fait, a pris le temps dans l'appartement de recopier le numéro noté près du téléphone après avoir abandonné sa victime. Il aurait pris le temps de noter ce numéro pour ensuite harceler les parents. Un inconnu n'aurait pas pu trouver ce numéro qui n'était pas disponible facilement dans l'annuaire. Il y a peut-être d'autres manières de le trouver, mais en tout cas le fait le plus logique, ce serait que le coupable a pris le temps de s'arrêter près du téléphone de la famille, de noter le numéro pour ensuite les appeler quelques jours plus tard.
Alors ça, c'est très important ce que vous dites, Yannick, parce que là, il y a une part de sadisme dans cette histoire. C'est-à-dire que la personne était une opération presque programmée de vouloir faire souffrir les gens. Il y a une volonté vraiment, c'est pas uniquement un simple violeur de passage ou bien d'opportunité.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas seulement un accident. Il y a une part de perversité dans ce qui s'est passé. Et effectivement, de se dire que il n'a pas commis ce fait par accident. Il ne s'est pas enfui après ce qui s'est passé. Il avait pris le temps de rester dans l'appartement et de fouiller sans doute, peut-être pour un cambriolage, mais de noter ce numéro pour ensuite appeler. Ça, effectivement, c'est marquant. Les enquêteurs se disent qu'ils sont face à quelqu'un de particulièrement pervers et de particulièrement méticuleux.
Un mois et demi après le coup de fil signé Zorro, revendiquant avec mépris le viol de la fillette, l'étrangleur de la Robertso repasse à l'acte. Mais cette fois, sa victime, une jeune fille, ne va pas survivre à plusieurs minutes d'asphyxie. L'étrangleur va devenir un tueur. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1986, la même silhouette qui se trouvait quai Zorn se profile rue de Dahlunden, un quartier tranquille de Strasbourg où de petites résidences sont posées dans la verdure environnante. L'homme entre au rez-de-chaussée du numéro 3, un petit appartement dans lequel vivent deux sœurs étudiantes, Martine et Patricia Riss, 17 et 18 ans. Cette fois, l'inconnu entre discrètement par la porte. Il dispose d'un double des clés. Il a dérobé ce trousseau quelques jours auparavant après avoir escaladé une poubelle et brisé avec une pierre la fenêtre des toilettes. Le logement était à ce moment-là vide. Dans l'appartement où dorment les sœurs dans deux chambres différentes, il surprend la cadette qui n'a pas le temps d'émettre le moindre cri. Elle est bâillonnée et entraînée dans la cuisine. L'homme lui arrache ses habits, l'agresse sexuellement puis l'étrangle avec une cordelette. Il n'en a pas terminé pour autant. À présent, il se dirige vers la chambre de Patricia. Celle-ci se réveille après avoir senti une présence et alors que l'inconnu vient tout juste de se pencher sur elle. Patricia se met à crier et sauve sa vie. La silhouette s'enfuit en courant, laissant derrière lui la cordelette avec laquelle il vient de tuer Martine. La police est aussitôt alertée. C'est une scène de crime sordide que découvrent les enquêteurs, comme si l'étrangleur s'était amusé à organiser un sinistre décor. Martine Riss est étendue sur le sol de la cuisine, face contre le carrelage, vêtue d'en haut de pyjama, son soutien-gorge arraché, le bas du corps en partie dénudé. Les traces d'agression sexuelle et de viol sont évidentes. Le maniaque s'est employé à découper des touffes de poils de sa victime avec une paire de ciseaux retrouvés sur place dans un nécessaire de manucure. Martine est morte par suffocation. Les médecins légistes, les professeurs Chaumont et Mangin établissent que l'agresseur a tout d'abord tenté d'étrangler l'étudiante avec ses mains, mais n'y est pas parvenu. Martine a réussi à se défaire de l'emprise. Elle a alors été traînée à moitié inconsciente dans la cuisine avec un drap et a succombé après avoir été étouffée avec une cordelette emmenée sur place par le meurtrier. Les légistes et les enquêteurs concluent à un acharnement manifeste de la part de l'agresseur, une volonté de tuer qui ne fait aucun doute. Même si les sœurs Rhys ne sont pas des enfants, la PJ ne peut que faire le rapprochement avec ce qui s'est passé 2 mois plus tôt, quai Zorn. C'est à nouveau une résidence tranquille qui a été choisie, un rez-de-chaussée occupé par des victimes de sexe féminin. Le mode opératoire est similaire et la cordelette en tout point identique à celle utilisée pour étrangler la petite Marion. Cette fois, l'étrangleur de la Robertso est parvenu à ses fins. Les enquêteurs ont affaire à un agresseur plutôt méticuleux et prudent. Dans la chambre de Martine Rhys, sur la coiffeuse, il a pourtant laissé une empreinte palmaire, la seule pouvant être exploitée sur la scène de crime. Celle-ci est relevée, mais ne correspond à aucun individu connu de la police ou de la justice. Dans cette région frontalière, les policiers n'excluent pas un agresseur pouvant habiter de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Mais ces vérifications compliquées et fastidieuses ne donnent rien. L'étrangleur meurtrier est dans la nature. On sait qu'il frappe dans un même secteur où il repère des immeubles tranquilles et faciles d'accès. Un rapprochement est fait cette fois avec une tentative de meurtre perpétrée en novembre 1986, presque un an après le viol de la petite Marion, contre une étudiante de 19 ans, Marie-Paul Tuillier, logeant au 22 quai Rouget de Lille. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1986, vers 4h du matin, Marie-Paul s'était réveillée en sursaut alors qu'un homme se penchait sur elle. La police avait découvert une cordelette sur le sol. La victime, qui commençait à être étranglée, n'avait pas été violée, mais s'était vu arracher une touffe de cheveux sur 3 cm. Le 18 novembre, un juge avait ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Ce pourrait être la dernière en date de l'étrangleur. Alors c'est un étrangleur qui laisse, on le voit, des indices. Il y a ces cordelettes et puis il y a cette espèce de manie perverse, peut-être de découper des cheveux ou des poils sur ses victimes, d'arracher des cheveux ou des poils. Yannick Holland, à RTL Strasbourg, au bureau, et vous êtes en ligne et en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. Premier constat, c'est important, on est presque toujours dans le même périmètre géographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agresseur, il connaît parfaitement les lieux.
Oui, exactement. À l'époque, les enquêteurs en fait comptabilisent 5 agressions, puisqu'il y a d'autres cas qui semblent se rapprocher de ce mode opératoire. Mmh. Et comme cela commence à se savoir, il y a plusieurs témoignages et toute une série d'agressions qui font penser au même mode opératoire. Mais les 5 agressions que les enquêteurs retiennent vraiment et qu'ils attribuent à l'étrangleur de la Robertso, eh bien, elles ont lieu dans un périmètre de 2 kilomètres entre Schiltigheim et le nord de Strasbourg, donc ce quartier de la Robertso, Schiltigheim et à la limite du centre-ville de Strasbourg, c'est vraiment dans cette zone-là. Donc, on se doute que c'est quelqu'un qui habite le secteur, qui passe dans le secteur et qui connaît parfaitement ces ruelles tranquilles, les endroits où il ne risque rien, voilà, ou qui sont tellement calmes qu'on peut passer finalement inaperçu la nuit. Donc ça, c'est une certitude très tôt des enquêteurs, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la ville et qui sait parfaitement se déplacer, trouver des victimes dans des lieux tellement calme mais qu'il va passer finalement inaperçu.
Et qui connaît vraiment des coins discrets, parce que je regardais sur Internet, sur Google Maps, je ne connais pas ce coin de Strasbourg, mais l'endroit où habitent les sœurs Rhys, c'est vraiment une résidence, il faut aller la chercher. C'est une petite rue, c'est au bout d'un quartier.
Exactement, mais le quai de Zorn, pareil pour Marion Villain, c'est une zone où finalement on ne passe pas en voiture, ce n'est pas une zone passante, il n'y a pas de risque qu'une voiture s'aventure par erreur dans une rue comme ça la nuit. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ces rues ont été choisies, parce qu'elles sont un petit peu éloignées des zones de passage habituelles, et que pour quelqu'un qui va commettre ses méfaits la nuit, il y a moins de risques d'être surpris.
Bien sûr, il y a moins de risques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde la nuit à Strasbourg à cette époque, et puis ce sont des rues très calmes. On a l'impression, Yannick, vous restez avec nous, Yannick Holland, on a l'impression, j'ai encore une question pour vous, que le mode opératoire, il est vraiment identique, et on a le sentiment que ce personnage qui n'est pas identifié, il a vraiment envie de tuer. Il y a une volonté de faire le mal qui est très puissante.
Alors, les enquêteurs, à l'époque, quand ils retiennent ces cinq agressions, il y a effectivement ces viols et ces meurtres, mais il y a également trois fois où les victimes ont eu le temps de hurler et de faire fuir leur agresseur. Et à chaque fois dans ces cas-là, on a retrouvé que l'agresseur avait fouillé également l'appartement, notamment les sacs à main, et les enquêteurs hésitent tout de même entre des cambriolages accompagnés de meurtres. Est-ce qu'il vient pour les meurtres? Est-ce qu'il vient pour des cambriolages et qu'ensuite cela se transforme en meurtre? Il y a tout de même encore ce doute sur est-ce que ce sont effectivement des cambriolages qui se transforment en meurtre ou est-ce que l'agresseur venait dès le départ pour violer et tuer ses victimes.
Bien sûr. On a en ligne Maître Éric Braun. Bonjour Maître Éric Braun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors vous êtes, je le dis tout de suite, l'avocat de celui qu'on a surnommé l'étrangleur de la Robertsau, qui s'avérera être Nicolas Charbonnier. Si vous voulez, maître, on va pas en parler tout de suite de votre client, vous aurez tout le temps de développer. Moi, je voudrais juste avoir votre sentiment lorsque vous avez découvert le dossier, et notamment ces scènes de crime qui sont très graphiques, comme diraient les anglo-saxons, qui sont très suggestives. Quel a été votre sentiment, vous qui êtes avocat pénaliste, qui connaissez bien ce genre de dossier?
Que c'était une affaire compliquée. Compliquée parce que, effectivement, les scènes de crime permettent de se poser la question, est-ce que ce sont des cambriolages qui ont mal tourné? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu pour agresser des personnes, ce qui me paraissait assez douteux à l'époque. Mais ce qui est clair, c'est que ça paraissait une affaire compliquée avec toute une série de faits dont finalement que deux seront retenus. Hein, les affaires sur Marion Villain et le meurtre de Martine Riss. Mais effectivement, un dossier énorme, peu d'éléments, tant que l'empreinte palmaire n'a pas parlé.
Bien sûr.
Et ensuite, essentiellement, les aveux et explications de Nicolas Charbonnier.
Oui, c'est ça. Mais ce que je disais avec Yann-Nicolas, on en parlait à l'instant, et vous l'avez entendu également en direct dans l'heure du crime, c'est qu'on a le sentiment que avec ce genre de méthodologie, tout peut basculer. C'est-à-dire on peut tuer ou partir, on est dans l'hésitation permanente.
Je pense, avec le recul maintenant, qu'il partait à la recherche d'une aventure, d'un cambriolage, on en reparlera peut-être tout
bien
à
sûr,
l'heure,
bien sûr.
Sans idée forcément préconçue sur ce qu'il allait rencontrer, mais il était prêt à tout.
Il était prêt à tout, c'est ça. Ça, c'est ce qui ressort évidemment du dossier, en tout cas de ce qu'on peut lire au début. C'est des positions qui sont tout à fait effrayantes. Yann-Nicolas, encore une question. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a la psychose à Strasbourg. Effectivement, cette psychose, là, elle va s'installer parce que les journaux, le meurtre de Martine Riss, on ne peut pas l'ignorer. C'est un fait qui est glaçant. Donc là, évidemment, on change de cadence, si je puis dire.
Exactement. Et donc les journaux vont commencer à parler de cette affaire, mais également de tous les actes qui pourraient y ressembler. Et donc pendant un an et demi, il va y avoir une quinzaine au moins d'agressions à caractère sexuel. Et à chaque fois, on va se demander si c'est le même agresseur. Et de tout cela, les journaux vont en parler, surtout dans ces quartiers-là. Et dans les journaux de l'époque, on explique qu'il y a certains, il y a aussi des résidences étudiantes. Et donc certains parents vont carrément retirer leurs enfants étudiants de Strasbourg parce qu'ils ne veulent pas qu'ils habitent à cet endroit-là, à ce moment-là, à Strasbourg, tellement il y a cette peur sur la ville dans ces quartiers de Strasbourg.
Je suppose que la ville, elle est non pas ratissée, c'est un bien grand terme, mais en tout cas que la PJ de Strasbourg s'affaire pour essayer de trouver une piste, de trouver quelqu'un. Les fichiers sont explorés.
Oui, mais effectivement, il y a très peu d'éléments de ce qu'ils ont vérifié. Les enquêteurs n'ont pas trouvé d'éléments probants, je dirais, sur les suspects habituels. Et on a très peu d'éléments, effectivement, en dehors de cette empreinte palmaire qui a été laissée dans l'appartement de Martine et de Patricia Riss. On a très très peu d'éléments à l'époque, avec la police scientifique de l'époque, on a très peu d'éléments pour trouver un suspect vraiment qui corresponde à ces différents faits.
Qui plus est, région frontalière, hein. Je vais rapidement évoquer, mais vous qui êtes le régional de l'étape, comme on dit toujours, vous connaissez parfaitement le coin, il y a beaucoup de circulation.
Effectivement,
hein.
c'est le problème du secteur strasbourgeois. Il peut y avoir des suspects installés en Allemagne qui franchissent la frontière, et à cette époque-là aussi, la coopération transfrontalière entre les polices n'est pas évidente, et dans plusieurs autres affaires de l'époque, on se heurte souvent à cette question, est-ce que les suspects ont tout simplement franchi la frontière, ont fait des quelques kilomètres pour venir à Strasbourg, commettre leurs méfaits et repasser de l'autre côté de la frontière, c'est totalement possible.
Malgré les indices laissés derrière lui et cette signature criminelle identique partout où il passe, les fameuses cordelettes, l'étrangleur de la Robertso reste insaisissable, il va même complètement disparaître de la circulation, c'est un revenant qui va refaire surface bien des années après, on va voir ça dans un instant. Impossible de retrouver la trace du mystérieux étrangleur de la Robertso. Après l'attaque en pleine nuit de Marie-Paul Thuillier fin 1986, il semble s'être tout bonnement évaporé. On ne note plus la présence de l'homme à la cordelette sur des lieux de cambriolage ou ceux d'agression de femmes à Strasbourg. Peut-être a-t-il quitté la région ou bien est-il tout bonnement mort ? Ce qui expliquerait l'interruption de sa sinistre activité. Force est de constater que le dossier n'a pas livré de clés permettant d'identifier l'étrangleur, la toute première victime potentielle. Octobre 1985, Patricia Huckel, Patricia, avait décrit un agresseur de taille moyenne, autour de 1m75, une corpulence mince et plutôt sportive, le visage recouvert d'une cagoule ou d'un bas de femme, elle ne sait plus trop, et porteur d'une lampe de poche. La victime ajoutait qu'avant cette agression, elle avait été l'objet d'un harcèlement téléphonique, une voix d'homme qui énumérait des fantasmes sexuels. La PJ de Strasbourg connaît la voix de l'étrangleur et dispose d'une empreinte de la paume de sa main détectée dans la chambre où Martine Risse a été tuée. Une trace spécifique qui n'est versée au fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, qu'en 2010. Jusque-là, ce type d'empreinte n'était pas exploité. Le 18 septembre 2012, une opératrice de ce fameux fichier FAED passe en revue une série de cold cases. Dans l'affaire RIS, le logiciel établit soudain une correspondance. L'empreinte palmaire gauche retrouvée sur la scène de crime match. Elle correspond à celle d'un homme impliqué l'année précédente dans un banal cambriolage, interpellé et inscrit au fichier. Un certain Nicolas Charbonnier, 50 ans, habitué des boîtes d'intérim et des petits boulots, pas d'emploi fixe. Il habite en Gironde, une commune près de Bordeaux. Il a vécu longtemps en couple, il est désormais célibataire et père d'une petite fille de 7 ans. Les enquêteurs établissent que Charbonnier est un ancien sergent qui a servi jusqu'en 1984 dans les régiments du génie. Il était à Strasbourg au moment des crimes. Il a quitté la région en 1991. Le 21 janvier 2013, Nicolas Charbonnier est interpellé chez lui, avenue de Pierroton à Saint-Jean-d'Illac. Placé en garde à vue, il dément d'entrée avoir violé et tué. Maître Éric Braun, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Nicolas Charbonnier qui vient donc d'être interpellé ce 21 janvier 2013. Je voudrais que vous nous disiez tout de suite qui est Nicolas Charbonnier.
À cette époque et à cet âge, surtout, Nicolas Charbonnier est un garçon d'une cinquantaine d'années, qui est installé effectivement dans la région de Bordeaux, qui a des travaux plutôt alimentaires, qui ne fait pas particulièrement parler de lui et qui est décrit comme un bon père de famille, qui s'occupe très bien de sa fille et avec lequel sa compagne, ils étaient séparés, mais étaient restés en très bon terme. Mmh. Et elle dira d'ailleurs toujours énormément de bien.
Y compris au procès, on le verra d'ailleurs, hein, elle viendra témoigner en sa faveur, si je puis dire. C'est quelqu'un qui... Il est totalement inséré, il n'a jamais fait parler de lui.
Alors, il y a eu quand même deux petits épisodes où
des cambriolages,
notamment cette affaire de 2011, qui était moins un cambriolage, je crois, qu'un vol dans un supermarché, enfin, qui lui avait été imputé, et on avait relevé ses empreintes. Mais à part cet incident, qui s'était soldé d'ailleurs par une peine d'amende, hein, uniquement, si je me souviens bien, il n'avait pas fait parler de lui, et il était globalement apprécié.
C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fondu dans la nature, on pourrait dire comme ça.
Alors, en tout cas, dans la masse, oui.
En tout cas, dans la masse, oui, tout à fait. Maître Braun, là, on est là 27 ans après les faits, ça fait beaucoup d'années. Premières heures de garde à vue, il dément les faits d'agression sexuelle, de viol et encore plus, évidemment, de meurtre. Ce qu'il dit, lui, il dit « Moi, je n'ai fait que cambrioler ».
Alors, dans un premier temps, il va tout nier, puis il va indiquer qu'il n'a fait que des cambriolages accompagnés, en fait, d'un complice auquel il va imputer les événements qui nous occupent. Mmh. Et ce n'est que lors de sa présentation devant le juge d'instruction à Strasbourg, puisqu'il a été rapatrié sur Strasbourg, qu'il va reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
Là, parce qu'il reconnaît les faits, Maître Braun, c'est important, parce que là, il y a une bascule, il y a un tournant. Il reconnaît les faits parce que c'est, il le dira d'ailleurs, c'est sans doute trop lourd à porter. Là, il y avait trop d'années qui sont passées et il a ressassé tout ça.
Je crois qu'il n'a jamais oublié ce qu'il avait fait. Il a essayé de se reconstruire, il s'est réinséré, mais il n'a jamais oublié ce qu'il avait fait. Et au moment où la vérité éclate, et elle est incontestable puisqu'il y a cette empreinte qui ne peut lui être qu'imputée, il fait le choix. Il fait le choix de ne pas nier ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des évidences, mais il fait le choix d'assumer. Mmh. Et on verra par la suite, à la toute fin du procès, qu'effectivement, il va assumer et exprimer des regrets qu'on pourra considérer comme sincères.
Oui, il va effectivement exprimer à plusieurs reprises des regrets. Yannick Holland, les policiers qui l'interrogent en garde à vue, il va être mené ensuite à Strasbourg devant le juge d'instruction, mais les policiers qui l'interrogent, ils ne croient pas à cette histoire de complice. Hein. Eux, ils sont...
Oui, d'ailleurs, il y a un deuxième élément qui va très vite arriver... aux oreilles des enquêteurs, c'est que en fait, après son arrestation, France 3 Alsace va rediffuser l'enregistrement
la fameuse
1990
voix.
Et la fameuse voix. Et à ce moment-là, dans les minutes qui suivent le reportage, des membres de la famille de Nicolas Charbonnier vont voir ce reportage, vont entendre la voix et vont reconnaître sa voix. Et ils vont s'appeler pour se dire « Tu as vu, tu as reconnu, c'était bien Nicolas. » Et à ce moment-là, ils sont sur écoute. Et donc, les enquêteurs ont ce deuxième élément qui vient corroborer l'empreinte palmaire. C'est que la voix a été reconnue par les membres de la famille de Nicolas Charbonnier. Ils l'ont entendu sur les écoutes. Toute la famille a pu reconnaître que c'était bien lui qui avait passé ce coup de fil. Et donc, pour les enquêteurs, on en est effectivement, c'est désormais une évidence, c'est bien lui qui a commis ces faits.
Maître Braun, encore un petit mot. Il est dans quel état quand il est arrêté? Parce que parfois, les criminels, comme ça n'est le cas, il y a un soulagement qui s'opère. Enfin, ils vont pouvoir peut-être expliquer. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Je n'ai fait sa connaissance qu'une fois qu'il était à Strasbourg. Mais effectivement, il y avait cette notion de soulagement. De quelque chose qui le hantait aussi depuis presque 30 ans.
4 mois après l'interpellation, la juge Marjolaine Poinçard organise les reconstitutions du meurtre de Martine Rhys, puis du viol et de la tentative de meurtre de la petite Marion. Nicolas Charbonnier a commencé à raconter sa dérive meurtrière. Il sera donc jugé aux assises. Le jeudi 17 mars 2016, Nicolas Charbonnier fait son entrée dans le box des accusés de la cour d'assises du Bas-Rhin. Dans moins d'un mois, il va avoir 54 ans. Il en avait 23 à l'époque des faits qui lui sont reprochés. Les victimes attendaient ce moment depuis 27 ans. Elles espèrent obtenir la confession de cet homme au regard perdu et au crâne dégarni. Il y a sur les bancs des parties civiles Marion, désormais âgée de 40 ans et qui a vécu toutes ces années avec le cauchemar de ce viol subi à l'âge de 11 ans. Après toutes ces années, elle ne nourrissait plus beaucoup d'espoir que son agresseur puisse être interpellé, confie son avocat, maître Yannick Fulpin. À côté de Marion, Patricia Rhys, 48 ans, est également présente. Elle avait 18 ans quand elle a mis en fuite par ses cris un homme qui venait de violer et de tuer sa sœur cadette, Martine. L'un des avocats de l'accusé, maître Éric Braun, avertit toute la difficulté dans ce dossier est de savoir comment juger, 30 ans après, un individu qui n'est plus du tout le même. Dès le premier jour d'audience, Nicolas Charbonnier confesse avoir commis l'horreur, observant que sa propre fille de 10 ans a exactement le même âge de la fillette qu'il avait violée 30 ans auparavant. Je me rends compte de la gravité des faits, ça me touche énormément, ça doit être insupportable pour eux, comme ça serait insupportable pour moi, assène-t-il. Charbonnier raconte son enfance au sein d'une famille catholique traditionnelle, les humiliations, les filles qui se moquaient de lui, une expérience militaire qui tourne court malgré sa volonté de s'expliquer et de répondre aux questions. L'accusé se heurte à un mur. Je me rends compte de l'horreur de mon geste, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, dit-il. Marion, quant à elle, témoigne de son viol. J'ai l'image d'une ombre qui vient sur moi, et cette ombre, je la vois depuis 30 ans, tous les soirs avant de m'endormir. Ce n'est qu'au petit matin, après avoir pleuré et s'être recouchée, qu'elle s'était écriée « Maman, on m'a étranglée ». Voilà donc pour le premier jour de ce procès qui est programmé à l'époque pour durer une semaine. On va en raconter la suite et l'épilogue dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Je voudrais, avec vous, maître Éric Braun, vous êtes l'avocat de Nicolas Charbonnier, l'accusé de ce procès. Quelle est l'ambiance qui règne dans cette salle d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg ?
Elle est clairement hostile. Mmh. Elle est clairement hostile, les faits sont abominables, les explications ne seront jamais satisfaisantes, telles qu'elles puissent être, et la participation, si je puis dire, de Charbonnier, parce qu'on a d'autres criminels qui ne viennent même pas à leur procès, hein, qui exigent de rester dans la cellule, ne va rien y changer. Les faits sont ce qu'ils sont, mais les témoignages des victimes, notamment de Marion Villain, était particulièrement poignant.
C'est ça, oui, c'est un témoignage qui pèse lourd. Hein. Elle est venue à l'audience, c'est une femme de 40 ans, elle a montré son visage, donc il y a une grande...
Elle manquait pas de courage. Hein.
Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais souligner, parce que c'est le courage exemplaire d'une victime qui est venue voir son bourreau, en quelque sorte, et qui a fait face, ce qui est très, très difficile, très complexe. Yannick Collin, notre journaliste RTL, du bureau de Strasbourg. Il a quel visage, ce Nicolas Charbonnier, qui a longtemps été un homme masqué et dont on ne connaissait rien, ni ses traits, ni son allure ?
Eh bien, on voit un homme, c'est un quinquagénaire, grand, mince, légèrement dégarni. Il est très calme. Je me souviens qu'il se mord les lèvres lorsqu'il entend ce qu'il a commis. Il n'ose même pas regarder les photos de ses victimes qui sont projetées. Et puis après, effectivement, nous, on se demandera toujours s'il est sincère, parce qu'il montre très peu d'émotions par ailleurs, il s'exprime calmement, il a longuement expliqué le poids de la culpabilité qui le ronge depuis 30 ans, mais il y aura toujours cette question, effectivement, pour lorsqu'on assistait à ce procès, c'est quelle est la sincérité de ce qu'il raconte. Un mot aussi sur l'ambiance quand même dans cette salle de cour d'assises, c'est
allez-y,
que
Yannick.
Le procès s'est ouvert 30 ans, jour pour jour, après le meurtre de Martine Rees. Donc vous imaginez le symbole que cela représente pour la famille de Martine Rees. C'est 30 ans, jour pour jour. Et voilà, il y a ce poids, il y a aussi ce poids de l'histoire dans tout ce qu'on va suivre dans ce procès, parce que il y aura toute une partie des pièces du procès qui auront disparu, des scellés qui ne seront plus là, des experts qui devront se souvenir 30 ans après, qui se rendront compte que ce qu'ils avaient dit il y a 30 ans, ce n'est peut-être pas ce qu'ils diraient aujourd'hui. Et il y avait tout ce poids également de l'histoire, ce poids de la justice 30 ans après. C'est très compliqué de faire un procès 30 ans après.
La famille Rees, il faut le souligner, Yannick, qui est à l'audience, hein, les parents sont là, la sœur est là. Là aussi, il ne manque pas de courage, les Rees.
Exactement. Et Patricia, que j'avais pu rencontrer avant le procès et qui ne souhaitait pas s'exprimer, mais finalement, le seul moment où elle a choisi de nous répondre, de nous parler, de nous dire quelques mots, c'est quand elle a entendu Nicolas Charbonnier tenter d'expliquer son geste. Ça l'a rendue folle de rage à la sortie du tribunal, et de se dire, elle avait l'impression qu'il essayait de se dédouaner de ce qu'il avait fait, de minimiser ses gestes, et pour elle c'est devenu d'un seul coup insupportable. Au moment de l'arrestation, elle m'avait dit que elle avait presque réussi à faire le deuil de cette histoire et que ça remuait le passé. Elle était presque
évidemment
gênée qu'il y ait une arrestation 27 ans après. Mais au moment du procès, lorsqu'elle a entendu le témoignage de Nicolas Charbonnier qui essayait de s'expliquer, vraiment, elle a trouvé ça totalement insupportable de réentendre et de ne pas avoir d'explication nette sur ce qui s'était passé.
Les témoins vont se succéder au cours de ce procès prévu pour durer jusqu'au mercredi 23 mars. Nicolas Charbonnier encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses aveux et ses regrets vont-ils lui éviter de finir ses jours en prison ? Au troisième jour du procès, Patricia Huckel, une viticultrice désormais âgée de 57 ans, est entendue. Elle n'avait avoué que très tardivement le viol qu'elle avait subi, de peur, disait-elle, de passer pour une mauvaise fille. Elle reste persuadée que c'est bien Charbonnier qui l'a attaquée dans la nuit du 5 au 6 octobre 1985. Elle n'est que témoin. Pour elle, les faits sont prescrits. Prescrite également la tentative d'étranglement contre Marie-Paul Tuillier. Seuls deux crimes sont donc retenus, le meurtre de Martine Risse, 17 ans, et le viol de Marion, 11 ans. L'accusé évoque le coup de fil passé aux parents de Marion et dans lequel il se présentait sous le pseudonyme de Zorro. C'est le summum de la lâcheté, quelque chose d'ignoble, dit-il lui-même. La famille de l'accusé, deux sœurs et un frère, est appelée à la barre pour témoigner. Des proches abasourdis, le père de Nicolas Charbonnier s'adresse aux familles des victimes, de la part, dit-il, d'une famille détruite à d'autres familles détruites. L'ex-épouse de Charbonnier, 20 ans de vie commune avant un divorce prononcé en 2009, décrit un homme qui n'a jamais été violent, mais un homme bienveillant, protecteur et dévoué, précise même cette cadre supérieure âgée de 42 ans. Après 5 jours de procès, l'avocat général demande la perpétuité contre l'accusé. Le charbonnier d'hier n'est pas le charbonnier d'aujourd'hui. Il a repris son âme au diable, expliquent ses avocats. Des défenseurs qui décrivent un homme qui n'est plus dangereux pour la société. Je voudrais sincèrement, du plus profond de mon cœur, demander pardon à la famille de Martine Risse et Marion Villain. Pardon d'avoir été un meurtrier et un violeur, c'est un énorme gâchis. Des mots insuffisants pour toucher les jurés. Ce 23 mars 2016, le délibéré ne dure que 2 heures. L'accusé est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans. Nicolas Charbonnier, l'étrangleur repenti de la Robertso, ne fera pas appel de sa condamnation. Maître Éric Braun, vous êtes l'avocat de Nicolas Charbonnier et vous étiez bien évidemment avec plusieurs de vos confrères à ce procès pour le défendre. Il y a une phrase effectivement qui fait toujours beaucoup de bruit lorsqu'on l'en prononce. Vous avez dit avec vos confrères et consoeurs, il n'est plus dangereux pour la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il a tiré un trait totalement sur son passé?
Vous vous doutez bien que les enquêteurs ont essayé d'examiner toutes les affaires qui, passé 86, pouvaient ressembler de près ou de loin aux faits pour lesquels Charbonnier était jugé. Et effectivement, passé 86, on n'a plus entendu parler de lui. Mmh. Et on n'a pu lui rattacher aucune autre affaire. Mmh. Il semblerait que ça ait correspondu à une période de sa vie. Alors, il y a des explications dans l'histoire familiale, etc. Mais une fois que cette période est passée, il a été, comme vous l'avez dit, un individu normal, inséré, bienveillant.
Mais, voilà. Mais maître, c'est impossible de mettre entre parenthèses, si je puis dire, des faits aussi lourds.
Alors, il ne les a jamais oubliés. Et pour preuve, on a retrouvé sur son ordinateur quelques traces de recherche sur la prescription, par exemple. Donc c'est quelque chose qui continuait à le hanter, à occuper de temps en temps ses soirées dans son ordinateur. Et pour autant, il n'avait plus fait parler de lui. Et il avait montré dans sa deuxième vie qu'il pouvait être quelqu'un de fréquentable.
Oui, c'est ça. Quelqu'un de fréquentable. En tout cas, oui, quelqu'un qui souhaitait de toute façon se faire oublier. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Est-ce qu'on connaît l'existence en prison de Nicolas Charbonnier? Que devient-il?
Alors, je vais commencer par ces derniers mots, si vous voulez. Vous avez dit, n'a pas fait appel. C'est extrêmement rare de la part d'un accusé condamné à une réclusion à perpétuité. Il risque rien, a priori, à faire appel. Bon. Et il nous avait dit, mais très rapidement, je crois que c'est encore dans les geôles de la cour d'assises, je n'imposerai rien de plus
aux victimes, et notamment pas un deuxième procès. C'est ce qui me faisait dire qu'il était sincère dans ses regrets. Je n'imposerai rien de plus aux victimes, et il n'a pas fait appel. Pour la suite, c'est un détenu modèle qui purge sa peine, on va dire d'une façon très générale, dans le sud-ouest de la France, qui reste en contact avec son ancienne épouse et sa fille, qui, comme tous les condamnés médiatisés, aimerait faire valoir son droit à l'oubli, mais l'affaire est rentrée dans l'histoire, et qui ne pose et ne posera jamais aucun problème en détention.
C'est ça, donc il veut se faire oublier, si je puis dire, hein, et c'est une manière aussi d'effacer le passé. Il paye pour ce qu'il a fait.
C'est peut-être une manière de se faire oublier, et comme il nous l'avait dit, de ne pas en rajouter à l'égard des victimes.
Yannick Holland, vous étiez également au procès, journaliste RTL au bureau de Strasbourg et en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. On a l'impression qu'il manque tout de même un maillon dans cette histoire. On ne sait pas finalement qui est vraiment Nicolas Charbonnier. C'est difficile. Même le procès, il y a un vide là-dessus.
Et exactement. En fait, on ne comprend pas vraiment qui il était à ce moment-là et pourquoi effectivement il a peut-être changé, en tout cas il a changé radicalement d'un seul coup. Pourquoi est-ce qu'il a commis ces actes horribles et pourquoi il a basculé et retrouvé une vie normale juste après? C'est très étrange et même lui-même n'arrive pas à l'expliquer. Il n'arrive pas à expliquer précisément pourquoi il a commis ces crimes. Il a réussi à se souvenir de ses gestes, à expliquer ce qu'il avait fait, mais au moment de l'explication du pourquoi, il a toujours eu cette amnésie à ce moment-là, pourquoi il l'avait fait. Il n'arrivait pas à l'expliquer, et il n'arrive pas non plus à expliquer pourquoi subitement il a totalement changé, il a disparu et on n'a plus entendu parler de lui pendant tant d'années.
Et encore un tout dernier mot et très court, Yannick, il reste quelque chose de cette histoire à Strasbourg? Elle a marqué les esprits?
Je pense qu'elle a surtout marqué effectivement tout Strasbourg, mais peut-être plus particulièrement les policiers strasbourgeois qui savent que même 27 ans après, on peut encore résoudre une affaire qui semblait impossible à résoudre.
Merci beaucoup Yannick Holland et maître Éric Braun. Merci d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation. Rendez-vous demain, 14h30. On parlera de la disparition du petit Mathis. C'était il y a 10 ans exactement. C'est une affaire extrêmement troublante et on va revenir dans le détail dans cette affaire, à savoir que la maman du petit Mathis continue toujours obstinément à rechercher ce fils qui a disparu depuis 10 ans, enlevé par son père. Une affaire extrêmement troublante.